écoutez Bon Réveil, il est 10h10, vous écoutez bien le grand entretien de Radio FM Plus 91. Bonjour à vous Sandra.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse, claviériste, compositrice et vous venez de sortir un EP intitulé Human.
Oui, tout à fait.
Dans ce disque, vous mêlez jazz, soul, musique actuelle et surtout beaucoup de vous-même, c'est ça?
Oui, c'est vraiment très autobiographique en fait, comme EP.
Ben justement, peut-être qu'on peut apprendre d'abord à vous connaître. Qui est Sandra? Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à nos auditeurs et auditrices?
Et oui, je suis Sandra. J'ai commencé la musique quand j'étais toute petite, à l'âge de 7 ans. Puis je suis allée au conservatoire à 10 ans. J'ai commencé par le piano classique et ensuite j'ai fait du jazz. Je suis allée dans une école à Rome aussi. J'ai fait plein de trucs. Après, j'ai fait plein d'expériences différentes avec plein de formations différentes. Je fais des comédies musicales aussi. Plein de styles, gospel, jazz, hip-hop, soul, et d'ailleurs ça s'entend un peu dans mon projet parce que ça mélange énormément de styles différents.
Et quel a été votre premier contact avec la musique? D'où elle vient cette passion?
Elle vient, je pense que mon premier contact ça vient de mes parents, ça vient de ma mère qui est chanteuse.
Ah.
Et qui faisait du piano aussi, il y avait un piano à la maison. Donc petite, je faisais du piano déjà et oui ça vient de ma mère, hein, ça vient de mes parents.
Votre parcours il est très riche, vous avez parlé de Rome, il y a aussi Montpellier, Perpignan, parce que j'ai fait mes petites recherches. Quelle expérience vous a le plus marqué?
C'est dur à dire, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Disons que ça a été aussi des enseignants peut-être et enseignantes qui m'ont marqué, qui sont devenus des mentors. Je ne sais pas comment on dit mentor au féminin d'ailleurs, est-ce que c'est peut-être neutre? Je ne sais pas. Je regarderai.
C'est une bonne question.
Mais oui, donc il y a des rencontres qui m'ont marqué. Rome, c'était quand même une expérience particulièrement enrichissante parce que bon, forcément la ville déjà. Puis moi, je suis à moitié italienne, donc j'étais contente de reconnecter aussi avec cette partie-là de moi. Et j'ai rencontré énormément de musiciens et de musiciennes incroyables là-bas. Ouais.
Comment est-ce que vous avez fini à Rome?
Ben du coup, ouais, voilà, comme je suis à moitié italienne, je parle déjà italien, je le lis, je l'écris. Donc j'avais envie d'une expérience un peu différente, de rencontrer aussi un réseau différent et de prendre un peu un air différent, on va dire. Donc c'était un peu logique pour moi d'aller à Rome, vu que j'étais aussi à moitié italienne. Ça m'a permis aussi de reconnecter avec une partie de la famille, donc c'était cool.
Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez faire carrière dans la musique ou pas?
C'est une bonne question parce que des fois même je me demande si j'ai vraiment choisi ce chemin-là. Disons que c'était une passion petite et je suis tombée dedans un petit peu sans faire exprès, ou en tout cas je me souviens pas. Je sais que je chantais tout le temps, même je saoulais les gens. Et je sais que quand je fais de la musique ou quand je chante, je me sens alignée avec quelque chose, donc en tout cas avec moi, avec ce que j'ai l'impression que je dois être. Donc oui, je crois que j'ai toujours voulu faire de la musique. C'est vrai que du coup, la question de la carrière et de choisir un métier, de tester différentes choses, j'ai pas trop fait ça. C'est pour ça que j'ai presque l'impression que c'est un non-choix. Parce que forcément, avoir le choix, ça implique de faire différents types d'expériences et de pouvoir comparer. Et moi, j'ai pas fait grand-chose à part une saison à faire des crêpes à 18 ans. J'ai jamais allé à l'université. J'ai jamais testé d'autres trucs, quoi. Peut-être un jour.
Ça a marché directement pour vous?
La musique, en fait, ça dépend quels sont les objectifs, quoi. Si les objectifs, c'est être heureux dans ce qu'on fait et donner de la joie aux gens autour de nous, alors je dirais que plus ou moins, parce qu'au conservatoire, j'étais pas toujours heureuse. Disons qu'on fait de vous une bonne technicienne, mais pas forcément une bonne musicienne. On parlait beaucoup de technique et pas trop de musique, donc ça me rendait pas hyper heureuse. Mais sinon, oui, très vite, c'était quand même plutôt gagné. Après, la réussite dans la musique, c'est particulier. C'est comme dans tout, quoi. C'est long et compliqué. Donc, pour moi, c'est gagné à partir du moment où j'ai réussi à toucher quelqu'un et à aider quelqu'un à processer une émotion, quoi. Bon, la musique et l'art en général, pour moi, c'est là pour ça, quoi. Exprimer des émotions et aider les gens aussi à avancer dans la vie, à processer, à digérer des trucs, peut-être. Donc, ouais.
Et donc, vous touchez des gens avec notamment vos musiques. Combien de titres est-ce que vous avez déjà sorti?
Alors, j'ai fait un premier album avec 6 titres qui s'appelle Final Cut. Et là, dans ce nouvel EP, on a déjà sorti 3 singles. Février, mars, avril, on a sorti un single par mois. Et le 22 mai, on va sortir l'EP en entier où il y aura 5 titres.
L'EP, donc, c'est Human, c'est ça?
Ouais, Human.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre-là?
Parce qu'en fait, ça parle de tous ces humains qui m'ont façonné, qui m'ont altéré d'une façon ou d'une autre dans ma vie, et qui font de moi, en fait, en partie, qui font de moi la femme et la musicienne que je suis aujourd'hui. Donc c'est un peu, en fait, mes expériences personnelles et autobiographiques autour de certaines rencontres. Il y a un morceau où je parle de ma grand-mère, un autre dont les paroles que j'ai coécrites avec ma mère, un autre qui parle d'une relation passée, toxique, violente. Voilà, ça parle de tous ces gens que j'ai rencontrés sur mon chemin. Et donc, finalement, plus généralement, ça parle un peu d'humanité au sens universel, quoi.
Est-ce que c'est intimidant de parler justement de... une sorte de mise à nu, en fait, parce que vous parlez de choses très personnelles. Est-ce que parfois ça vous effraie de vous dire, ben là, la personne en face de moi sait que ça, c'est ma vie?
Ouais, c'est super flippant. C'est super flippant et en même temps, c'est hyper libérateur. On est dans une société où c'est pas toujours évident de pouvoir exprimer ses émotions à fond, où il faut retenir les choses, être parfois même consensuel et pour pouvoir fitter, en fait, moi, dans un environnement qui était pas toujours, qui me correspondait pas toujours, en tout cas, qui me permettait pas d'exprimer vraiment pleinement ces émotions-là et de pouvoir, dans mes titres, parfois hurler, et chanter les choses et les émotions, les faire sortir, ça me faisait grave du bien. Donc, c'est un mal pour un bien, c'est une peur pour un bien, en tout cas. Et puis, quand je vois, en fait, les retours que les gens me font, à quel point ça les touche. J'ai une dame qui, à la fin d'un concert, est arrivée, les larmes aux yeux, elle s'est effondrée devant moi, elle me parlait du morceau sur ma grand-mère et sur ma mère. Elle me disait qu'elle était en train de perdre sa mère et que ça l'a touchée énormément, que ça lui a fait un bien fou. Bon, voilà, c'est sûr que se mettre à nu, c'est toujours risqué, mais le résultat est souvent positif. Ça permet de se sentir proche des gens et c'est cool d'être proche des gens.
Et comment il se passe le processus d'écriture? Est-ce que, par exemple, vous mettez, je sais pas moi, un disque particulier en boucle jusqu'à ce que vous ayez terminé? Est-ce que ça vous prend 2 ans ou 2 semaines? Qu'est-ce que c'est?
Alors, ça dépend des morceaux, ça dépend des sujets, ça dépend de tellement de choses. Waste of Love, le deuxième single qui est sorti, qui parle d'une relation passée, du coup, toxique et violente. J'ai commencé à le composer pendant le confinement, dis-toi. Donc c'était il y a quand même maintenant, je sais plus, 2020, c'est exact.
5 ans.
Ouais, quand même.
5 ans déjà.
Ouais. Tu vois, il sort que maintenant. Donc il a beaucoup évolué. Il y a une longue pause au milieu où j'ai arrêté d'y toucher. Donc ça dépend, quoi. Et puis il y a d'autres morceaux qui sortent en 5 minutes, 10 minutes, parce que on a une fulgurance ou parce que à ce moment-là ça se passe comme ça. En fait, ça varie vraiment, quoi. Le processus. Moi, j'avoue que je suis passée par plein de processus différents. Des fois, c'est la musique avant et le texte après. Des fois, c'est le texte d'un côté, la musique de l'autre. Et puis, pouf, en fait, ça colle. Il y a vraiment tellement de choses. Après, oui, je vais m'inspirer. Je vais m'inspirer de ce qui me plaît dans ce que j'écoute. Ça, c'est clair. Souvent, ça va être un peu waouh, ça, c'est trop beau. J'adore. J'ai envie de faire ça. Donc, d'une façon ou d'une autre, je vais m'en inspirer ou je vais prendre telle idée. Je vais me l'approprier.
Est-ce que vous avez des artistes précis en tête ou pas?
Oui, moi, ce que je fais est beaucoup influencé par des artistes comme Anomaly, Jacob Collier, Robert Glasper. Dans le chant, il y a Tori Kelly, plein de gens, Erika Badu. Mais c'est des chansons à voix aussi, donc on peut même retrouver des trucs un peu pop, un peu R&B avec du Whitney Houston, des trucs comme ça, quoi.
Vous avez dit que vous étiez aussi italienne, est-ce que vous chantez en italien?
Alors je chante pas en italien parce que j'ai du mal à pas trouver ça un peu kitsch. Comme en français avec le R&B, enfin la soul comme ça, ma voix ça fait très vite chime. Donc j'ai du mal un peu. Je jalouse d'ailleurs des amis qui arrivent à chanter en français où ça sonne la mort. Moi, vraiment, ça fait très vite un peu kitsch, quoi. Je crois que j'ai trop une voix Disney pour ça, je sais pas. Mais du coup, je chante pas en italien parce que voilà, j'ai du mal encore à trouver ça. Par contre, il y a le sample de la voix de ma grand-mère dans la composition de ma grand-mère, qui parle de ma grand-mère. Elle a 101 ans à l'époque de l'enregistrement de ce sample que j'utilise tout au long. Et en fait, c'est un peu comme une conversation que je fais avec elle. Donc, je chante pas en italien, mais il y a de l'italien quand même dans mes sons.
Mais en tout cas, je vous propose d'écouter une première musique. Et après, on va revenir un petit peu sur toutes les infos, où est-ce qu'on peut vous trouver, vos concerts et toutes les bonnes actualités à suivre.
Yes.
Child, so did not see why. Maybe it's me, I'm too noisy. Would you shut the fuck up now? I take too much space, it should be erased.
Merci beaucoup à Léonie d'avoir passé cette musique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre ?
Ce morceau s'appelle Go Blow Yourself.
Oh, donc vous chantez aussi en anglais ?
Oui.
Ou seulement en anglais plutôt ?
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de ce titre ?
Ce titre, en fait, il parle de quand je me faisais harceler, quand je me faisais bully au collège. ça parle de ça et de justement, bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, je chantais beaucoup. Tout le temps. Et parce que j'adorais ça et j'ai toujours eu une énergie assez forte, on va dire. Je suis quelqu'un d'assez speed et du coup, je me faisais un peu harceler par rapport à tout ça et au point en fait où bah, ça m'a fait arrêter de chanter complètement. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'aujourd'hui je suis pianiste parce que du coup je me suis concentrée sur le piano parce que j'ai un peu arrêté le chant et donc j'ai fait énormément d'études en piano mais je suis autodidacte en chant. Et donc je suis revenue sur le chant, enfin j'ai réosé un petit peu chanter beaucoup plus tard. Et finalement, assumer cette part de moi et assumer le fait d'être chanteuse, ça c'est revenu que tard, c'est revenu qu'il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, 3-4 ans vraiment. Donc cette chanson en fait elle parle de ça, de quand j'ai perdu ma voix à cause de quand je me suis faite donc harceler et de comment je l'ai retrouvée, comment j'ai dépassé ça. Et ce refrain, justement, il dit ça, il dit « You can go blow yourself », tu peux aller te souffler toi-même, en fait, avec un petit jeu de mots sur une expression un peu plus vulgaire, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai dit, cette expression-là, à la fin. Voilà.
Et donc, c'est un choix de faire des musiques, parce qu'elles sont un petit peu engagées, quand même, vos musiques. Mmh.
Ouais, complètement. C'est assez. Il y a quand même, pas mal de, déjà. C'est assez féminin comme projet, quoi. Déjà, il y a beaucoup de figures féminines. Ma grand-mère, c'était quand même le premier exemple féministe, en fait, aussi de ma vie, puisqu'elle avait, elle est née en 1916, donc elle a vécu jusqu'à l'âge de 101 ans et elle était artiste peintre. Donc, elle avait trouvé elle cette façon de s'exprimer dans un environnement, en fait, où elle n'avait pas trop. Au chapitre, quoi. Donc, c'était un peu déjà ce premier exemple-là d'expression et d'indépendance, on va dire, féminine. Donc c'est assez engagé, quoi. Ça parle, par défaut, finalement, parce que moi, mon objectif, c'était pas forcément d'être dans un délire engagé ou quoi que ce soit, c'était de parler de mon expérience personnelle. Et j'ai eu envie de parler des choses qui m'avaient touchée et bouleversée. Autant que des choses qui m'avaient aidé et poussé à aller plus loin. Et donc forcément, ça génère un discours universel qui se veut engagé, mais c'est par défaut, enfin, quelque part, quoi. Mais je l'assume, hein, c'est cool.
Et les musiques, vous ne les composez pas tout seul, si je ne me trompe pas ?
Alors, la majeure partie, si. C'est quand même c'est moi qui fais quasiment tout dans les compos. J'ai été aidée sur certains endroits et seulement sur certaines compos par un ami qui s'appelle Damien Guisset, un super bassiste, un de mes meilleurs amis, qui m'a accompagnée dans la composition sur certains endroits. Il y a un morceau qui a pris naissance dans une session de composition collective avec Pablo Auguste et Kylian Rébrayant, qui étaient... mon équipe à la base, aujourd'hui c'est Arjuna Mariapin à la batterie et qui a remplacé Kylian. Sinon, à part ça, il y a un petit peu de l'arrangement qui a été fait avec les musiciens, mais majoritairement c'est moi quand même.
Et comment s'est fait cette rencontre justement avec le trio, donc Pablo Auguste et Arjuna Mariapin ?
Alors, avec Pablo, on s'est rencontrés sur les bancs du conservatoire. On a passé notre DVM de jazz ensemble. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et Arjuna, c'est par le biais de Pablo, en fait. Disons qu'on s'était déjà croisés avec Arjou dans le réseau et sur des concerts. On avait des gens qu'on connaissait en commun. Mais c'est Pablo, en fait, qui m'a proposé qu'il connaissait parce qu'ils avaient un groupe ensemble.
D'accord. Et quelle est la place de chacun, justement, dans le processus de création ? Vous nous en avez un petit peu parlé.
Arjuna n'a quasiment pas du tout, par exemple, participé au processus de création. Il est arrivé assez tardivement, même assez récemment, d'ailleurs. Donc, maintenant, il commence à prendre de plus en plus sa place, justement, là-dessus. Donc, on a déjà un petit peu parlé d'arrangement avec lui, mais voilà, pas plus. Et sinon, pour moi, c'est hyper ouvert. C'est-à-dire que les garçons pourraient même arriver demain avec une compo. Je serais trop chaude de la faire, quoi. Tout est ouvert, on pourrait tout composer ensemble. On pourrait faire les morceaux de chacun, des uns et des autres, sans problème. Ça vient majoritairement de moi parce que de base c'était mon initiative et donc je suis arrivée avec le répertoire en fait à moitié voire quasi fini en fait. Mais il y a toujours de la place pour plus de musique et plus d'arrangements et plus de compositions sans problème. Donc ça les garçons ils le savent et d'ailleurs on échange, on a déjà commencé à échanger des sons, des trucs. Enfin, moi je suis pour la composition collective et que tout le monde s'y retrouve quoi. Mais c'est vrai que je suis plutôt leader dans ce projet, donc c'est plutôt moi quand même qui décide.
Et Arjuna vient de La Réunion. Pablo, apparemment, il a un parcours assez riche avec du jazz, hip-hop, house.
Ouais.
Est-ce que pour vous, c'était important de trouver des... Enfin, peut-être pas de trouver, mais de créer avec des musiciens qui, eux aussi, ont cette polyvalence musicale ?
Ouais, complètement, parce que dans mon projet, il y a énormément de fusions de styles différents. En fait, j'avais besoin de m'émanciper... un petit peu aussi justement d'un seul style. J'avais fait du classique, puis après j'avais fait du jazz et tel type de jazz. Donc là, en fait, pour que ça me ressemble vraiment, il fallait que ce soit un peu un patchwork de toutes les choses que j'aime, quoi. Donc c'est une mosaïque de styles différents. Je considère que c'est ça qui fait aussi la singularité des gens. C'est la complexité, la richesse d'une personnalité. C'est toutes ces petites choses-là. Donc oui, il y a même un morceau qui finit en house, justement. Il y a un peu de pop, un peu d'expérimental. Il y a vraiment plein de trucs différents quoi, dans ce projet. Il y a tout ce que j'aime, en fait. Et tout ce qui fait un peu ma personnalité. Donc oui, forcément, jouer avec des musiciens qui pouvaient jouer à la fois du free jazz et à la fois des grooves binaires à la D'Angelo... c'est sûr que ouais, c'était pour moi quelque chose que je recherchais.
Est-ce qu'il y a des moments d'improvisation qui ont nourri les morceaux de l'EP ou pas du tout ?
Oui, alors y a des plages d'improvisation, ça c'est sûr. Mais tu veux dire des moments d'improvisation dans nos résidences quand on bossait ensemble ?
Plus dans les titres.
Ah oui, alors oui, dans les titres, il y a certains endroits. Là, dans le titre qu'on vient d'écouter, toute la partie piano, c'est une impro. On improvise ensemble là-dessus. Ouais, il y a tout le monde s'exprime, il y a une impro de basse, une impro de batterie, je crois que, ouais, j'ai une impro de chant aussi à un moment donné. Enfin oui, c'est sûr, ça fait partie du code du jazz qu'on a emprunté, qu'on a continué à garder aussi avec certains types d'harmonies enrichies, mais ouais, l'impro c'est les musiques improvisées en fait, ça fait partie de mon histoire aussi beaucoup.
Et est-ce qu'il y a une chanson qui a été particulièrement difficile à écrire ?
Bah, Waste of Love, quand même, j'ai mis longtemps à l'écrire. Hein.
Combien de temps ?
Du coup, c'est celle qui parle ouais, voilà, qui parle des violences que j'ai vécues, violences conjugales. Mais du coup, ouais, celle-là, j'ai mis quand même du temps à l'écrire. C'était un peu une des premières, en plus, de ce projet-là. Donc, c'était vraiment le temps d'oser, de rentrer dedans. Sinon, ouais, non, celle-là, c'était... En fait, elle n'a pas été forcément difficile à écrire en termes de musique, quoi, mais elle a été difficile à sortir, à process. Même les paroles ont changé. Beaucoup, au fur et à mesure que la relation et ma vision de la relation, mon émancipation aussi de la relation et de la toxicité de la relation changeaient. Donc, disons que j'étais presque un peu plus gentille en fait au début. Puis après, j'étais en colère. Puis après, j'étais plus du tout en colère. Donc, j'ai même changé les paroles en quelque chose un peu moins justement vénère pour quelque chose qui me ressemble plus. Donc, ça a été long à écrire finalement, le temps de vraiment processer et digérer ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais.
Et maintenant, elle est comment, du coup, si elle est plus vénère, comme vous dites ?
Maintenant, elle est cool. Non, maintenant, elle est... je sais pas, je dirais que pour moi, en fait, en tout cas, c'est un bel exemple. Maintenant, c'est quelque chose dont je suis fière, quoi. C'est un bel exemple d'émancipation, de sérénité. Disons qu'en fait, c'est un témoignage de ce qui s'est passé, pour pas aussi qu'il n'y ait rien eu, quoi. Parce que, bon, à part une main courante, il n'y a pas eu trop de conséquences, en fait, à ces actes. Donc, bah, au moins, il y a cette chanson. Et puis, si ça peut aider, si ça peut servir. Donc, disons que c'est plus un témoignage. Aujourd'hui, un témoignage posé, serein. Et quand je la fais, je suis hyper apaisée. Et c'est intense. C'est hyper intense. Et ça me permet quand même d'exprimer cette émotion qui est dans le souvenir. Elle est intense parce que c'était un souvenir intense. Mais c'est plutôt apaisé, quoi. Ça reste, je mets quand même les points sur les i et les barres sur les t, hein. Je caresse pas dans le sens du poil non plus, on va pas se mentir. Mais voilà.
Est-ce que vous avez eu des retours justement sur cette musique en particulier ?
Oui, j'ai fait un concert et j'ai une dame qui est venue me voir à la fin. Enfin, il y a plusieurs gens qui m'en parlent en fait, qui viennent m'en parler. Plusieurs femmes notamment. Et j'ai une dame notamment à la fin d'un concert qui est venue me voir et qui m'a dit: je vous ai vu l'année dernière. C'était avec mon précédent projet, mon précédent album que j'avais sorti, qui s'appelle Final Cut. Elle était venue me voir et elle me dit donc, je suis venue vous voir il y a un an dans votre concert pour Final Cut. Ça faisait depuis 2 semaines que j'avais quitté mon mari, que j'avais pris mes enfants, mon mari violent. Et c'était la première fois que je sortais, ça m'avait fait un bien fou déjà à l'époque. Et là, je suis revenue vous voir cette année et vous parlez de cette chanson et vous parlez de ça. Et je suis bouleversée, c'est incroyable. Ça me permet de retourner en arrière sur ce qui s'est passé et d'être fière de moi. Et c'est fou, la coïncidence. Et elle avait les larmes aux yeux quand elle me disait ça. Elle me dit merci beaucoup. Ça fait un bien fou d'entendre que vous parlez de ça, d'entendre cette chanson. C'est magnifique, etc. Enfin bref, donc ça fait partie des retours, par exemple, que j'ai eus. Puis j'ai reçu des messages, des trucs comme ça. Ouais, c'est cool. Si ça fait du bien, tant mieux.
Vous avez parlé de concerts. Combien de scènes vous avez déjà faites ? Si vous pouvez les compter.
Oulala, franchement, là, j'en ai fait beaucoup quand même. Parce que je fais de la musique, je fais des concerts depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Donc ça fait un paquet d'années. La dernière fois, on a fait le calcul avec un pote, mais je me souviens plus du chiffre. Enfin, c'était beaucoup, beaucoup, quoi. C'était plus de 1000, quoi.
Ah oui.
Ouais.
Il y a une scène qui vous a particulièrement marqué ou pas ?
Ah oui, alors récemment, j'ai été sélectionnée pour faire partie d'un grand orchestre. C'était sur un hommage à Claude Nougaro, organisé par Fred Palem. Et on s'est retrouvés à faire vraiment les plus belles scènes du circuit jazz. C'était Chapiteau à Marciac. On a fait aussi Jazz à Vienne, le théâtre antique, c'est incroyable. C'est des jauges à 10 000 personnes. Un théâtre antique en plus, on arrive pour les balances, en fait c'est un mur, on n'a pas de perspective vraiment, quoi. On a l'impression d'avoir juste un mur gigantesque devant nous, puis après quand il y a les gens on se rend compte c'est une tapisserie en fait avec des tout petits gens au bout. Donc ça c'était quand même avec des écrans géants partout, ça c'était quand même hyper cool et hyper intense, ça c'était les scènes qui m'ont marqué. Mais il y a des plus petites scènes aussi qui m'ont vachement marqué, parce que souvent en fait c'est pas tant les scènes, c'est aussi le public.
C'est sûr.
Et le retour qu'on ressent, les gens, leur réaction, donc ouais. Ça varie en fait. Mais c'est vrai que ces scènes-là, elles étaient belles.
Et est-ce que vous avez le track avant de monter sur scène ?
Oui, toujours.
Toujours ?
Oui, toujours. C'est utile le track. C'est ce qui. C'est comme ça que tu sais que t'es toujours vivant, quoi. en fait, c'est un mélange d'avoir à la fois hâte de monter sur scène et en même temps peur, quoi. Mais on apprend à le gérer avec de la respiration et tout, mais c'est important d'avoir le track, je crois. En fait.
Et est-ce qu'une fois sur scène, vous arrivez un petit peu à lâcher prise ou pas du tout ?
Ouais. Disons qu'il y a les premières minutes où c'est toujours un petit peu une déflagration, l'impression de tomber dans le vide, quoi. Mais puis ça dépend, encore une fois, hein, il y a des scènes, il y a des publics, il y a des trucs. Là, on va faire la release de l'EP le 23 mai au Jam, et je sais qu'il va y avoir énormément de gens qui comptent énormément pour moi dans le public. Et même là, quand j'en parle, je suis un peu stress, quoi. Parce que c'est pas pareil que de jouer finalement devant 10 000 personnes où tu reconnais personne. Enfin, avec la lumière, tu vois
là,
pas les
gens. Là, c'est votre entourage, quoi.
Ouais, il y a un truc encore plus stressant. Donc, je pense que je vais bien, bien flipper, quoi. Et après, quand même, quand on est dans la musique, souvent, ça se détend. En fait, on est dans l'instant présent au bout d'un moment. Et puis, on est rassuré par le fait que... Ah ouais, les peurs irrationnelles, en fait, sont vite désamorcées. Parce que, bon, bah, on fait de la musique, on voit que, bah, non, en fait, on n'a pas perdu tous ses moyens et c'est OK, quoi.
Donc, comme vous l'avez dit, vous jouez au Jam à Montpellier le 23 mai pour la sortie de l'EP. Comment est-ce qu'elle est arrivée, cette date ?
C'est du démarchage, hein, c'est beaucoup de travail. J'ai envoyé un mail à Mike, qui s'occupe de la programmation du Jam. On se connaissait aussi un petit peu d'avant, parce que j'avais déjà pas mal joué au Jam. Par le passé, j'avais joué avec Final Cut aussi à la sortie de cet album-là. Ouais, j'ai proposé le projet et il a été retenu.
Donc vous connaissez déjà la salle?
Je connais bien la salle et ouais, moi je viens de Perpignan, mais je suis aussi sur Montpellier, je suis Montpellier-Rennes aussi, donc le jam, ouais, on connaît bien maintenant. On a la maison.
Et cet été, vous serez aussi dans un festival, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire lequel?
C'est Jazz sous les galets, je crois, c'est ça?
C'est ça.
Ouais. La meuf est trop busy, elle a trop de concerts, elle se souvient plus où elle joue. Ouais, c'est ça, c'est un festival à Bagnols-sur-Mer. Ça va être trop bien parce qu'en plein mois de juillet, là, je pense qu'on va être, vraiment bien. Ça va être cool.
Et pareil, c'est vous qui les avez démarchés ou comment ça s'est passé?
Oui, oui. Comment j'ai eu cette date-là? Punaise, parce que je fais tellement de démarchages. Ça, c'est vraiment... les musiciens le savent. Les musiciens, musiciennes le savent. C'est vraiment le sacerdoce de tout artiste de les démarcher pour trouver des dates. Donc ça, j'avoue, je sais plus. J'ai dû envoyer un mail, hein, simplement. Et par chance, ils m'ont répondu.
Et il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on peut écouter cette EP? Parce que vous êtes sur toutes les plateformes.
Oui, on est sur toutes les plateformes, Spotify et compagnie. Même Deezer. J'ai rencontré quelqu'un l'autre soir qui m'a dit qu'il m'écoutait sur Deezer. Ça, je sais pas. Enfin, il y a plus grand monde apparemment, je crois, sur Deezer, mais lui, en tout cas, il y est. Et moi aussi, j'y suis. Nous aussi, on y est. Donc, vous pouvez nous écouter partout, ouais. Même sur YouTube et tout. Enfin, il y a vraiment... Voilà. Et puis, j'ai Instagram aussi. Suivez-moi sur Instagram.
Justement, j'allais vous demander où est-ce qu'on peut suivre vos actualités.
Bah, toutes les informations. Là, on fait un super travail de communication avec ma chargée de com, Laura Plateau. Vraiment, elle assure. Ouais, c'est Sandra Cipolla. C-I-P-O-L-A-T. Sandra Cipolla sur les réseaux, sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre.
C'est important de nos jours les réseaux sociaux pour se promouvoir.
Ouais, grave, c'est super important. Mais après, j'arrive petit à petit, on prend ça en main et puis c'est aussi un bon outil en fait pour tester des trucs même, pour voir comment le public répond sur certaines, peut-être même nouvelles compos, des trucs comme ça ou tester, voir des choses et puis s'exprimer en fait. Quelque part, quand on démarre justement, on est un petit peu à la merci des programmateurs, programmatrices, ou quand on répond à des appels à projets pour les tremplins, ce genre de choses. Donc on est un petit peu comme ça, un peu pris au piège dans ce jeu-là. Alors que sur les réseaux, en fait, on est libre, on est indépendant. Donc ça apporte quand même une certaine indépendance, c'est super cool. C'est moins cool quand l'industrie du coup utilise ça un petit peu aux dépens des artistes, quoi. C'est vrai, bon, bah, Spotify, voilà quoi, c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie, c'est clair. Mais bon, il y a des pendants positifs et négatifs comme dans chaque chose, quoi. Il faut savoir arriver à prendre le bon et manager le moins bon, quoi.
En tout cas, merci beaucoup Sandra pour cette rencontre, pour votre sincérité, j'ai envie de dire, parce que vous êtes vraiment très sincère.
Ah ouais,
et pour ce disque, on rappelle la sortie de l'EP le 22 mai.
Ouais.
Et rendez-vous au Jam à Montpellier le 23 mai pour le découvrir en live et c'est peut-être ça. À très bientôt dans nos studios.
Grave, avec plaisir.
Bonne journée à tous, au revoir.